Bonjour à toi et bienvenue sur Voyageurs de demain, le podcast qui te fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Je m'appelle Hélène et je suis la petite voix qui va t'accompagner tout au long du podcast. Au vu de la situation mondiale avec le Covid-19, j'ai souhaité partager avec toi les impressions de celles et ceux qui le vivent ailleurs qu'en France. Cette crise est aussi l'occasion, pour ceux d'entre nous qui le peuvent, de réfléchir à nos habitudes de consommation et à amorcer le changement dans notre quotidien. N'hésite pas à écouter les autres épisodes du podcast qui, je l'espère, t'inspireront à envisager le voyage autrement. Aujourd'hui, je reçois Ine, qui habite à Melbourne en Australie et va nous parler de la situation là-bas. Comment se sont passés les débuts de l'épidémie en Australie ?
Je me suis installée à Melbourne en Australie le 12 décembre dernier. Quand je suis arrivée ici en Australie, le contexte était assez particulier puisque je suis arrivée en plein dans la crise des bushfires. Donc quand le coronavirus a commencé à faire des siennes, on était dans un contexte particulier de pays fragilisés, de populations fragilisées. Donc c'était déjà c'était un autre coup de massue pour l'Australie. Quand on a vraiment commencé à entendre parler du coronavirus ici, je dirais que c'était fin janvier, avec le premier cas de coronavirus confirmé sur le territoire. Apparemment, c'est un voyageur qui venait de Wuhan en Chine, qui est arrivé en étant porteur du virus, mais porteur sain. Il a déclaré et développé la maladie par la suite et il est arrivé à Melbourne. Donc ça, c'était le premier cas. Et donc assez vite après ça, en février, le gouvernement a décidé de fermer les frontières à toute personne venant de Chine. Pas seulement les ressortissants chinois, mais tous les voyageurs qui venaient de Chine. Donc ça, c'était les premières mesures du gouvernement. Au départ, comme dans beaucoup de pays, j'imagine, j'avais pas vraiment pris toute la mesure de la gravité de la situation. Je regardais les informations sur le coronavirus de manière très lointaine. Je regardais sans vraiment regarder, en me disant que ça allait passer dans quelques semaines. Et en fait, quand j'ai commencé à voir qu'il n'y avait plus de papier toilette au supermarché, d'ailleurs, on en parlait en France en rigolant, en se disant « En Australie, il n'y a plus de papier toilette, c'est en rupture de stock », ça me faisait bien rigoler. Enfin, voilà, je prenais ça avec un peu d'humour et de légèreté. Et je me disais que les gens étaient vraiment décidément en panique et que voilà, je ne comprenais pas trop pourquoi à ce moment-là. Et puis j'ai commencé à voir qu'il n'y avait plus de papier toilette, qu'il n'y avait plus de boîte de conserve, qu'il n'y avait plus, voilà, toutes ces choses un petit peu qu'on prend quand on commence à paniquer au supermarché. Et je pense en effet que la population ici en Australie, comme j'imagine aussi dans beaucoup de pays dans le monde, était assez partagée. Il y avait des gens qui ont commencé à paniquer très vite par rapport au coronavirus en allant faire leurs courses, en allant acheter du papier toilette, en prenant tout le gel hydroalcoolique qu'ils pouvaient trouver. Le savon aussi, le savon liquide manquait énormément au supermarché. Donc il y a eu ces personnes-là qui très vite ont commencé à paniquer et puis il y a le reste de la population qui prenait pas ça très au sérieux, qui même se moquait un petit peu des gens qui paniquaient. Et voilà donc en gros la situation, comment elle était. Et bon, les choses ont évolué, il y a eu de plus en plus de cas. Il y a deux choses à savoir sur l'Australie. Déjà, c'est un pays qui est très très grand, donc en termes d'impact du coronavirus sur le pays, c'est très irrégulier et très différent d'un État à l'autre. Et aussi, c'est un système politique fédéral. Donc, il y a des États différents qui sont un peu plus ou moins indépendants dans leur façon de gérer la situation. En Australie, il y a 6 États. Et les 3 États qui étaient les plus affectés sont les États de Nouvelle-Galles du Sud, New South Wales avec Sydney, l'État de Queensland avec Brisbane et l'État de Victoria avec Melbourne. Et donc, les États ont réagi de manière très différente. Et en effet, par exemple, l'État fédéral avait indiqué qu'il ne souhaitait pas fermer les écoles, que ce n'était pas nécessaire. Mais dans les 2 États de New South Wales et de Victoria, les gouvernements locaux en fait, de chaque État ont décidé d'aller à l'encontre des recommandations de l'État central et de fermer les écoles. Et donc, les vacances scolaires ont été avancées d'une semaine dans ces États-là et elles n'ont pas ouvert leurs portes depuis. Donc, on voit quand même qu'il y a une gestion en fait de la situation qui est très différente d'un état à l'autre. Et puis il faut pas oublier que c'est un pays qui est immense avec peu de population, donc au niveau du développement de la maladie, ça a été beaucoup moins tragique que dans d'autres pays comme l'Italie, la France, l'Iran, dans des pays où il y a des densités humaines qui sont plus importantes. Et on constate quand même que les états finalement où il y a eu le plus de, et c'est logique, le plus de cas sont les états les plus peuplés. Et donc en termes de chiffres, on est à 6720 cas confirmés en Australie. Évidemment, on sait qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à ces chiffres-là parce qu'il n'y a pas eu réellement de tests qui ont été réalisés. L'Australie a décidé de ne pas tester les personnes. Seulement les personnes qui venaient de l'étranger étaient testées. Mais depuis peu, toute personne qui souhaite être testée peut le faire. Donc ça, c'est très récent. Et sur les 6700 cas confirmés qui sont peut-être, c'est sûrement beaucoup plus que ça, il y a 84 morts. Et en fait, l'état où il y a le plus de cas, c'est l'état de Nouvelle-Galles du Sud.
Quel impact le confinement a-t-il eu pour toi et la région où tu vis ?
À partir du 20 mars, le gouvernement australien a décidé de fermer les frontières à toute personne qui n'est pas résident permanent ou australien. Donc ça, c'est à partir du 20 mars que ça s'est fait. Et puis, parallèlement à tout ça, les mesures générales ont été assez similaires à celles d'autres pays. Donc, il y a eu la fermeture des bibliothèques, des cinémas, des lieux publics, des parcs, des plages aussi. Parce que notamment, il y a eu... Et ça, c'est lié en fait à un événement, un week-end où il y a eu énormément de monde sur les plages, la plage de Bondi à Sydney. Et en fait, c'était une folie, mais bondé comme si on était en Méditerranée, et donc le gouvernement a fait ça suffit, je pense que vous comprenez pas ce qui se passe, donc ils ont fermé toutes les plages dans le pays. Les restaurants et les cafés sont ouverts, mais seulement pour des plats et des cafés à emporter et pour les livreurs Uber, etc. Donc c'est un confinement qui est dans l'ensemble plus souple que ce qu'on peut trouver en France. On n'est pas obligé de sortir avec une attestation. Mais on est quand même invité à sortir seulement pour aller faire ses courses, en cas d'urgence, pour travailler et pour faire de l'exercice. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, notamment les deux compagnies aériennes Qantas et Jetstar qui se sont arrêtées. Donc beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et le gouvernement a essayé d'aider ces personnes-là à trouver un nouvel emploi dans certains secteurs qui demandaient beaucoup de main-d'œuvre, notamment dans les supermarchés. Et voilà, en gros, dans l'ensemble, un confinement moins strict, mais tout aussi, on va dire, monotone. Alors, plusieurs actions de solidarité ont été mises en place. Mais celle que j'ai trouvée vraiment chouette et qui a été mise en place, en fait, par les supermarchés, c'était celle de permettre aux personnes âgées, aux personnes fragiles et aux personnes handicapées de venir faire leurs courses en toute sérénité en ouvrant le supermarché une heure plus tôt que d'habitude. Donc, toutes ces personnes-là pouvaient aller faire leurs courses en toute sérénité entre 7h et 8h du matin dans un supermarché propre pour essayer d'éviter les contaminations. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une approche intéressante.
Quels sont tes espoirs pour l'après-Covid-19 ?
Comme dans beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de gens ont commencé à se poser des questions, à remettre beaucoup de choses en question, à remettre en question notre modèle sociétal, notre modèle économique, la manière dont on travaille, dont on consomme, dont on mange. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique, que c'est un mal pour un bien, cette situation-là, parce qu'il fallait vraiment qu'on stoppe tout, qu'on sorte de la matrice et qu'on commence vraiment à se poser des questions, parce qu'on est en train de vivre dans un monde qui nous rend malheureux, qui nous rend fous et qui nous rend malades physiquement et mentalement. Et par rapport à la maladie physique, c'est vrai qu'on vit dans un monde où on a pris conscience qu'un système immunitaire aussi affaibli est un système qui ne va pas forcément nous permettre de survivre à d'autres épidémies ou à cette épidémie-là, par exemple. Et beaucoup de personnes ont commencé à se dire « Mais comment je fais pour booster mon système immunitaire ? Qu'est-ce qui affecte mon système immunitaire ?» Et beaucoup de personnes ont pris conscience que finalement, le rythme qu'on nous impose et la vie qu'on vit, elle est faite de stress, elle est faite d'aliments, de malbouffe. Et donc, il faut remettre en question toutes ces choses-là. Et moi, mon credo, mon fer de lance, en fait, c'est sur mon compte Instagram notamment, c'est d'encourager les gens à végétaliser leur alimentation et à réduire la part de produits ultra transformés dans leur alimentation, pour avoir une vie beaucoup plus saine, durable et respectueuse de l'environnement. Et en fait, vraiment, mon souhait et mon espoir, c'est que la crise du coronavirus permette à beaucoup de gens de remettre en question justement tout ça, de changer leurs habitudes surtout, et de se réinventer à ce niveau-là. Et ce que j'entends par là, c'est j'espère que les gens, en fait, ils vont retourner vraiment au naturel, à l'essentiel, à leurs racines, Beaucoup de gens aujourd'hui ont décidé de cuisiner davantage. Ils reprennent un petit peu ces habitudes-là de recuisiner, de retourner vers des choses plus naturelles, de faire pousser des graines germées. Enfin, voilà, donc j'ai l'impression que c'est une tendance à cause du confinement, mais j'espère vraiment qu'elle va continuer cette tendance-là et que les gens vont retourner vers une vie beaucoup plus simple, une vie beaucoup plus connectée à la nature, une alimentation beaucoup plus vivante, beaucoup plus connectée à la nature aussi, qu'on va arrêter de manger ces conneries qu'on nous sert sur les rayons de nos supermarchés, qui sont des produits ultra transformés qui nous rendent malades, qui affectent notre système immunitaire. Et donc voilà, j'espère, c'est vraiment mon espoir et mon souhait pour l'avenir, c'est que voilà, de ce point de vue-là, on puisse vraiment se créer une vie beaucoup plus épanouissante, un peu plus alignée aussi avec nos valeurs. Et je pense qu'on a tous des valeurs assez similaires, de retourner à l'essentiel. Et quand on voit que la planète, elle respire à nouveau, je pense que ça a beaucoup touché beaucoup de personnes. Et il faut qu'on aille vers ça et qu'on tente vers ça. Alors, je suis peut-être une éternelle optimiste, mais en tout cas, je l'espère, je le crois. Et j'ai confiance en l'humanité.
J'espère que cet épisode t'a plu. D'ailleurs, tu peux me le faire savoir en t'abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître ce projet. N'hésite pas aussi à rejoindre la communauté sur Instagram pour continuer nos échanges. À la prochaine !